chers auditeurs, auditrices, fidèles téléspectateurs et téléspectatrices des programmes du Studio Kalangu, bonsoir et bienvenue au Forum du Studio Kalangu. Votre émission quotidienne qui traite de différents sujets de la société. Nos programmes sont diffusés via notre réseau de 52 radios partenaires dans tout le Niger ainsi que 7 télévisions partenaires. Il y a 10 ans de cela, d'aucuns ne disaient que les enfants d'aujourd'hui étaient moins bien élevés que leurs aînés. Néanmoins, l'éducation moderne engendre certains effets indésirables. L'éducation des enfants, éternel sujet de débat, la fugue à l'adolescence, la consommation de la cigarette ou chicha chez certains, le recours fréquent à la violence, l'absentéisme scolaire sans autorisation et le vol sont beaucoup plus significatifs que des épisodes isolés de ces mêmes faits. À titre d'exemple, le Niger détient plus de 37% du taux des accidents de la route dans la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. La majorité des auteurs sont les jeunes. Plusieurs facteurs qui seront débattus au cours de ce forum sont à la base de ces difficultés, surtout quand on sait qu'au Niger, la structure démographique fait ressortir le poids important des jeunes dont le taux d'accroissement naturel est estimé à 3,81% en moyenne sur la période 2001-2011. Environ 60%, c'est-à-dire 13 millions de la population à moins de 18 ans et près de 500 000 jeunes rentrent sur le marché du travail chaque année. Aujourd'hui, nous allons parler de la responsabilité des encadreurs face aux attitudes des adolescents. Quelle est la cause de ces attitudes? Quelles conséquences pour la société? Quelles sont les règles en matière éducative? Comment promouvoir les valeurs sociales chez la jeune génération? Autant de questions qui suscitent autant de réponses. Justement, pour répondre, nous avons l'honneur de recevoir dans ce studio M. Yougbare Zakari, surveillant au complexe scolaire privé L'Intégrale du Savoir. Bonjour, monsieur.
Bonjour, madame.
Dans ce studio également, nous avons M. Alou Aye Issa, sociologue. Bonjour, monsieur.
Bonjour, madame.
Et soyez les bienvenus au studio Kalangu. Merci. À la modération, je suis Balkis Ahmed Sidi. Studio Kalangu. J'aimerais commencer avec monsieur le surveillant. Monsieur, expliquez-nous votre mission au sein de l'établissement.
Merci madame, merci de m'avoir donné l'opportunité. En tant que surveillant général, comme tous les surveillants généraux, le rôle du surveillant, c'est de veiller à la bonne marche de l'établissement. En un mot, c'est le moteur de l'établissement. Et le surveillant général porte deux robes. Il y a la robe du surveillant et en même temps, il est parent d'élève. Il est le cordon entre les élèves et l'administration, entre les élèves et les enseignants. Mmh. Donc, comme je le disais, c'est vraiment le moteur. Et quand il mène bien son travail, l'école aura moins de problèmes. Dans le cas contraire, l'école va crouler.
Monsieur Yougbare, lorsqu'on fait le ratio, les élèves passent plus de temps en compagnie des enseignants que vous êtes que les parents. Comment se fait cette cohabitation entre élèves et enseignants?
Et vous venez de dire, les enfants de maintenant, la jeunesse d'aujourd'hui. Donc, ça veut dire que hier, il y en avait. La cohabitation est difficile. Vraiment, c'est difficile. Et pourquoi? Pour la simple raison que les parents ont abandonné. Les parents, pour eux, c'est d'amener l'enfant à l'école. Il n'y a pas que ça seulement. Mais il faut se rassurer, est-ce que l'enfant rentre en classe? C'est ça vraiment notre problème. Les parents, ils amènent les enfants et c'est fini. Et je pense qu'ils doivent changer de comportement. Sinon, dans 10 ans, je vous dis bien dans 10 ans, ceux qui ont les moyens doivent garder leurs enfants à la maison et puis recruter des enseignants.
On ne le souhaite pas quand même. Sinon, en parlant de parents d'élèves, nous avons prévu dans ce studio la représentante de l'association des parents d'élèves, Madame Maïmouna. À la dernière minute, elle est souffrante, donc on lui souhaite un prompt rétablissement.
Merci.
Monsieur Aloui Aïe, vous êtes sociologue. Les parents éduquent, les encadreurs forment aussi. Sociologiquement parlant, à qui incombe cette responsabilité d'éduquer les enfants?
Merci bien. La responsabilité d'éduquer un enfant repose, en tout cas, à un certain nombre de personnalités ou des instances, socialement parlant, qui sont habilitées à assurer cette éducation pour l'enfant. Donc, il y a l'éducation d'abord, c'est quoi? C'est un processus. Et qui dit processus dit une sorte d'évolution dans le cadre de cette transmission du savoir ou de l'éducation, du savoir-vivre pour l'enfant. Et bien, comme c'est un processus, la société a prévu un certain nombre de dispositifs qui doivent être les instances de socialisation qui puissent permettre à l'enfant d'acquérir les éléments lui permettant d'intégrer la communauté. Ces instances-là, la première instance, en tout cas en termes de responsabilité dans l'éducation de l'enfant, c'est d'abord la famille. La famille donne ce qu'on appelle l'éducation de base. Elle doit assurer à chaque enfant cette éducation de base qui puisse lui permettre d'évoluer. En évoluant dans la progression, l'enfant sera maintenant au niveau de l'école, qui constitue la deuxième instance de socialisation ou d'éducation ou de formation, si vous voulez, de l'enfant. Après l'école, il y a ce qu'on appelle le groupe de pères, qui constitue le troisième pilier, qui est, si vous voulez, une sorte de regroupement, que ce soit le FADA, que ce soit les camarades, des enfants de la même génération qui sont ensemble, qui interagissent les uns sur les autres et qui constituent également un élément de socialisation ou d'éducation de l'enfant. Et la dernière instance...
C'est ce que d'aucuns appellent l'éducation de la rue?
Non, pas forcément l'éducation de la rue. On va peut-être le voir dans le développement. Il y a l'éducation de la rue, l'enfant dans la rue et l'enfant de la rue, qui constituent deux éléments différents. Parce que tous, tant que nous sommes, nous avons un moment fréquenté la rue. C'est important dans l'éducation de l'enfant parce que ça lui permet de se confronter à certaines réalités et de pouvoir développer un mécanisme à l'interne qui puisse lui permettre de surmonter ou de faire face à ces difficultés-là. Mais malheureusement, de l'enfant dans la rue, on peut basculer à l'enfant de la rue. Et c'est ça toute la difficulté. Lorsqu'on devient l'enfant de la rue, là, on rompt le cordon ombilical qui vous lie avec la famille. Donc, vous allez loger avec les gangs et tout ce qui s'ensuit dans la rue. C'est ça la difficulté. On ne le souhaite pas. Donc, sinon, l'éducation, stade-là, où l'enfant sera avec ses amis, où l'enfant sera avec d'autres amis à lui, d'autres camarades, est extrêmement important dans le processus de l'éducation de l'enfant. Et après, je le disais, la quatrième instance, c'est véritablement les médias qui interviennent, qui eux ont un pouvoir transversal, qui puissent intervenir partout pour assurer et accompagner l'éducation de l'enfant. Donc, en termes de responsabilité ou de primauté dans la responsabilité, je dis bien que c'est d'abord et avant tout les parents qui sont les premiers responsables en termes d'éducation de leurs enfants. Parce que tout part de l'éducation de base. C'est comme dans un immeuble, la fondation, elle est déterminante. Eh bien, l'éducation de base que nous serons amenés à assurer à nos enfants est primordiale dans la suite. L'école ne peut qu'accompagner, former, donner, si vous voulez, de la matière pour que l'enfant puisse se spécialiser dans telle ou telle discipline. Mais dans le fond, en termes de respect, en termes de valeur de la communauté, c'est d'abord et avant tout les parents qui sont chargés de transmettre. C'est vrai, le dispositif social permet qu'au-delà des parents, puisque chaque parent ne peut pas à lui seul assurer exclusivement l'éducation de son enfant, mais la communauté doit veiller et intervenir pour épauler les parents. Dans le temps, vous l'avez dit, dans le temps, c'est comme ça que ça se passe. D'abord, les parents assurent. Mais dès que l'enfant commence à sortir du cercle familial, la société ou la communauté dans laquelle il réside, elle apporte un suivi pour véritablement accompagner cette éducation des parents avant même que l'école ne prenne le relais.
Merci, Monsieur Aloui Aye. Monsieur Yougoubaré, tout à l'heure, vous avez évoqué le cas des enfants, des élèves qui sèchent les cours, alors que les parents, eux, ils pensent que comme l'élève est parti à l'école, donc les surveillants doivent veiller à ce que l'enfant soit en classe. Qu'est-ce qui se passe? À qui incombe cette responsabilité? Le fait que les élèves sèchent les cours, qu'est-ce qui fait cela? Qu'est-ce qui cause cela?
Oh, c'est tout simplement par manque de suivi. Quand je dis que les parents amènent les enfants, ces enfants-là, après le son de la cloche, ils contournent. Ils partent dans les quartiers. C'est-à-dire qu'ils ne rentrent même pas dans la cour.
Donc,
ils font semblant, les parents
qui... D'école missionnaire comme font les élèves du primaire.
Voilà. Et ils partent. À 13 heures, ils reviennent. Les parents viennent les chercher. Mais si les parents passaient, ne serait-ce qu'une fois par mois, ils vont se rendre compte du comportement de l'enfant. Chaque moment, je dis aux parents, n'attendez pas qu'on vous donne convocation. En ce moment, la situation est pourrie.
Avant que la situation ne devienne... Ce sont les parents qui inscrivent les enfants à l'école.
Oui.
Et vous avez les contacts de ces parents. Est-ce que vous avez l'habitude de convoquer les parents avant que ça devienne plus grave, quoi?
Mais c'est ce que nous faisons. À chaque moment, on appelle les parents. Mais ils ne répondent pas. Ils n'ont pas le temps. Voilà la phrase qu'ils nous donnent. Ils n'ont pas le temps. Ne pas avoir un temps pour son enfant. Vous voyez ce que ça veut dire?
Bon, certainement des obligations pour le service.
Mais moi, je dis toujours, même les dimanches, s'ils m'appellent, moi, je peux venir répondre. Oui. Les dimanches, moi, je peux venir. Voilà. Mais ils ne le font pas. Et les quelques parents qui viennent, ce sont les mamans. Et vous connaissez la relation entre mère et enfant.
Ah, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que ça sous-entend, la relation entre mère et enfant?
La mère protégée.
Elle protège son fils.
Son fils.
Monsieur Alou Aye, par rapport à cette situation, le fait que les mamans protègent leurs enfants,
oui,
qu'est-ce que vous pensez de cela?
C'est une évidence. C'est une évidence.
Il y a une complicité entre les... la mère et l'enfant.
Et l'enfant, le plus souvent, c'est toujours comme ça. Vous savez, l'éducation de base là dont j'ai parlé tout de suite, elle a deux piliers. Le premier pilier, c'est la maman qui a la capacité de transmettre les valeurs à l'enfant de la manière la plus douce, de la manière la plus appropriée, parce qu'elle a cette capacité d'écoute, elle a une sorte de complicité qu'elle développe avec ses enfants. Et du coup, elle est à mesure de transmettre l'éducation aux enfants. Mais l'existence d'un père, qui est l'incarnation de l'autorité parentale, est fondamentale et doit accompagner la manière douce à travers laquelle la maman transmet l'éducation. Du coup, si les deux sont là, et chacun joue son rôle convenablement, eh bien, vous avez toutes les chances pour que votre enfant puisse véritablement acquérir les valeurs sociétales. Mais lorsque il se trouve que c'est seulement la maman qui intervient, qui assure l'éducation des enfants, le papa est absent, eh bien, vous allez manquer une sorte d'autorité, de rigueur. Parce que le père intervient lorsqu'il y a des limites. Il donne les limites à la maman qui éduque l'enfant. Et lorsqu'elle constate que l'enfant est en train de dépasser, de vouloir franchir les limites là, c'est en ce moment-là qu'elle doit alerter le papa pour qu'il puisse intervenir et restaurer l'ordre. Mais lorsque les mamans, le plus souvent, c'est ce qu'elles font, elles deviennent complices des enfants, elles cachent parce qu'elles sont sensibles lorsqu'on insulte l'enfant, elles sont sensibles lorsqu'on gronde l'enfant, quelque part elles se disent qu'elles ont raté leur éducation. Et c'est pourquoi le plus souvent, les mamans ont tendance à vouloir maquiller, à vouloir protéger les enfants au maxi. Parce que, quelque part, la défaite dans l'éducation de l'enfant, lorsque l'enfant devient raté, quelque part, les mamans sont les premiers responsables, avant peut-être que le papa. Donc c'est cette situation qui fait en sorte que le plus souvent, les mamans ont tendance à protéger les enfants. Même à l'école, si vous allez laisser toujours les mamans accompagner les enfants à l'école, vérifier ce rôle de suivi-là, eh bien, dites-vous que vous n'êtes pas sûr, vous n'avez pas la garantie que l'enfant est en train véritablement d'évoluer de l'énorme. Par conséquent, monsieur Yubare l'avait évoqué tout de suite. L'éducation, ce n'est pas seulement de transmettre, mais il y a un processus de suivi. Il faut assurer le suivi. Tant que vous n'êtes pas en mesure de suivre dans l'évolution de l'enfant, et surtout avec l'étape de groupe de père, là, avec ses amis, l'enfant est en mesure de perdre ce que vous avez donné, ce que vous avez inculqué à la base. Et aujourd'hui, les médias sont là. L'Internet est là. Ce n'est plus la télé seulement, mais c'est l'Internet qui est le véritable problème aujourd'hui de l'éducation des parents. Parce que personne n'a la garantie qu'à 100%, ce qu'il a décidé de transmettre à l'enfant, l'enfant est en train de les acquérir. Ou bien ce qu'il a décidé de ne pas donner à un temps, par exemple, à son enfant, il faut attendre qu'il ait 12 ans, qu'il ait 15 ans, pour qu'il puisse le connaître. Personne n'a la garantie que l'Internet ne lui a pas déjà transmis ça, que l'école ou la rue ne lui a pas déjà transmis ça. Par conséquent, il faut forcément qu'il y ait un mécanisme de suivi qui puisse permettre à chaque père ou à chaque parent de pouvoir, au-delà de la transmission des valeurs, mais suivre pour voir est-ce qu'au cours de l'évolution, l'enfant n'est pas en train de perdre un certain nombre de choses.
Et nous, on est contre cette idée que l'enfant puisse perdre ses valeurs sociales. Et il y a une autre situation. Que pensez-vous de la situation des enfants qui sont loin de leurs parents?
L'enfant qui est loin de ses parents, je ne sais pas, peut-être si c'est un des parents ou les deux à la fois.
Des fois, il y a, par exemple, le père, s'il est absent, c'est la maman qui est chargée de l'éducation de l'enfant.
Malheureusement, même pour ceux dans l'apparence où on voit la présence des deux parents, ils sont le plus souvent loin. Ils ne sont pas présents. Pourquoi j'ai dit que les parents ne sont pas présents le plus souvent de nos jours? Parce qu'ils n'ont pas le temps, comme l'avait dit le surveillant. Les parents, de plus en plus, n'ont plus le temps. Parce que dans leur tête, c'est quoi? L'éducation se résume tout simplement à ce que votre enfant soit inscrit dans la meilleure école de la région ou de la ville et qu'il vous apporte les meilleures notes. Dans leur tête, le plus souvent, les parents, c'est ça l'éducation. Et ils feront tout pour trouver les ressources financières.
Monsieur Alou Aye, nous avons tout à l'heure dit que les enfants passent plus de temps avec les encadreurs. De 8h jusqu'à 13h, ils sont avec les encadreurs. Le peu de temps là qu'ils vont passer avec leurs parents, c'est juste peut-être dans l'après-midi ou bien la soirée, parce que il y a d'autres parents qui sont des fonctionnaires. Ça, c'est un autre cas. Il y a d'autres parents qui sont tout le temps à la maison. Que pensez-vous de cela? Parce qu'ils passent plus de temps avec les encadreurs.
Oui, mais évidemment, c'est ça qui crée le déséquilibre.
Et donc, ils supposent que quand ils inscrivent les enfants à l'école, donc...
Ils ont une certaine garantie. Alors que l'école n'est pas forcément un cadre approprié pour l'éducation exclusive de l'enfant. L'école a pour rôle, si vous voulez, sous le contrôle de l'enseignant, de former l'enfant et non pas de l'éduquer. L'éducation commence à la maison. Et lorsque vous allez inscrire votre enfant, il faut vous assurer que c'est de ses fréquentations. D'abord, dans quelle école je vais amener mon enfant? Est-ce que c'est dans une école où il y a la discipline, où il y a la rigueur, où les valeurs que moi je porte existent à l'école là? D'abord, hein. Ensuite, maintenant, la fréquentation de votre enfant, comment elle est? Il traîne avec qui? Il joue avec qui? Tout ça là, il faut que vous puissiez regarder. Et surtout, savoir observer les enfants. Parce qu'à chaque instant, j'arrive, à chaque instant qu'un enfant apporte du nouveau, vous pouvez le déceler si vous êtes attentif. Mais lorsqu'on n'est pas attentif, on n'a pas ce temps, on ne se donne pas ce temps-là, c'est normal que les choses deviennent graves. C'est en ce moment-là que vous allez vous rendre compte.
Je reviens vers Monsieur Yubare. Monsieur Yubare, les enfants, les élèves passent plus de temps avec vous. Du coup, vous avez cette responsabilité d'avoir un œil sur ce qui se passe. Même si les parents ne viennent pas, vous avez ce devoir d'interpeller les parents à chaque fois.
Oui, madame. C'est comme Monsieur Laye l'a dit. Vous savez, l'enfant a plusieurs comportements. Il y a le comportement de la maison, il y a le comportement de la rue, et il y a le comportement de l'école.
Oui, monsieur.
Et le comportement de la rue, c'est ça que l'enfant cherche à développer à l'école.
Par exemple, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples des situations que vous vivez avec les élèves à l'école?
Oui.
En dehors des cours là qu'ils sèchent,
oui.
Y a-t-il d'autres comportements qu'ils font encore à l'école?
D'accord, il y a d'autres, il y a beaucoup, il y a plusieurs.
Exemple?
Un enfant qui fait tontine à l'école, est-ce que vous trouvez ça normal?
Tontine, c'est-à-dire expliquer?
Adaché.
À l'école?
À l'école. Est-ce que vous trouvez ça normal?
Donc, lui qui n'a pas de ressources, l'élève qui n'a pas de ressources, on ne peut pas comprendre, il va faire adaché. Avec quoi il va faire adaché?
Avec de l'argent.
L'argent de récréation ou bien quoi?
Je ne sais pas, mais c'est avec de l'argent. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la maison, ces enfants-là ont commencé à apprendre à voler à bas âge. Oui. Et ça excite les autres.
Donc, au lieu de venir apprendre le cours, donc eux, ils maintenant, font... c'est le lieu de cotiser de l'argent.
Voilà, vont... oui. Vous voyez, c'est, ça fait partie des comportements. Des enfants qui fument, ça fait partie des comportements. Vous savez, à l'époque, nos parents nous aidaient à choisir nos amis. Quand un camarade, un enfant amène son camarade à la maison, la première question, tu viens d'où? Tu es de quelle famille? Mais ça ne se passe plus. Oui, un parent qui peut faire 3 jours sans voir ses enfants. Hein, madame? 3 jours sans voir ses enfants.
Certainement, ils sont, les parents sont en déplacement. En tout cas, si le pas père forcément. N'est pas...
Pas forcément, madame. Ils sont là.
Dans la même maison?
Dans la même maison.
Je ne comprends pas la situation.
Ils viennent tardivement et ils quittent tôt. Mais il faut avoir un petit temps pour les enfants. Ah oui. Et le tout, ils rejettent ça sur l'école. Nous, on ne peut pas tout faire. On peut faire ce qu'on peut faire.
Donc, à l'école, qu'est-ce que tontine là qu'ils font? Le fait de prendre, par exemple, de fumer. Quelles sont les dispositions que vous avez prises? Parce qu'il y a des règlements intérieurs dans les établissements. Comment vous faites?
Quand on saisit des trucs comme ça, nous appelons les parents. Et, comme je le disais, ils n'ont jamais eu de temps pour venir. Souvent, quand l'enfant rentre avec la convocation, le lendemain, il revient avec un autre parent. Je vais ouvrir une parenthèse.
Oui, allez-y.
Une année, il y avait un enfant, un élève de la troisième, qui faisait drift. Et automatiquement, j'ai demandé de l'arrêter. Il était venu à la surveillance. J'ai dit bon, de lui donner une convocation. Il est parti. Le lendemain, il a essayé. De rentrer dans la cour. J'avais donné des instructions fermes. 3 jours après, il a vu que ça n'allait pas. Maintenant, il m'a amené un monsieur. Quand le monsieur était venu, j'ai dit oui. Il dit, ah, c'est son fils qui l'a remis le papier. J'ai dit, c'est ton enfant? Il dit oui. J'ai dit, parce que l'affaire-là peut nous amener à la justice. Parce que quand j'ai vu le monsieur, et en voyant l'enfant, ils ne prennent pas la même marmite. Donc, j'ai dit, parce que ça peut nous amener à la justice. Il s'est un peu retenu. Il dit, bon, ça, il peut être mon enfant. J'ai dit, ah, comme il peut être ton enfant, là, amène-moi le père. Merci. Et quand le père était venu, et j'ai relaté les faits, mais le père a demandé, mais tu as un père en dehors de moi? Quand il a coincé, l'enfant a dit, ah, c'est le vendeur de paille du quartier. Donc, vous voyez des trucs comme ça. Les enfants, là, sont plus forts que nous.
Vous madame. Êtes les parents.
Hein? Ah oui, ils sont plus forts que nous.
Les parents en même temps les encadreurs. Avant d'être encadreur, vous êtes des parents.
Et nous le sommes toujours. Nous sommes toujours les parents. Voilà. Mais ce que moi, je voudrais et je souhaiterais, c'est que les parents viennent vers nous. Tout de suite, vous n'avez... Parce qu'il y a beaucoup de structures. Il y a l'APE, l'Association des parents.
Justement, nous avons prévu, nous lui avons envoyé une invitation. Oui. Malheureusement, elle est souffrante. C'est pour cela qu'elle n'a pas pu se joindre à nous.
Voilà. Ils devraient aussi donner leur contribution. Ils peuvent passer dans les écoles. Ah, nous, on est là. Donc, quelles sont vos difficultés? On va les énumérer. Et eux, entre parents, ils peuvent se voir. Mais ça ne se fait pas. Il y a COGES. COGES aussi doit passer dans les écoles. Ah oui. Donc vraiment, il y a trop de problèmes, madame.
Trop de problèmes. Que pensez-vous de la situation? Parce qu'il y a des enfants qui sont soit loin des parents ou bien qui sont orphelins. Certainement, dans vos établissements, vous pouvez avoir des enfants qui sont soit orphelins ou bien loin des parents. Est-ce qu'ils font des comportements pareils? Parce que eux, par exemple, eux, ils sont loin des parents. Donc, que pensez-vous de leur situation?
Bon, ceux qui sont loin des parents, C'est toujours la même chose, c'est le comportement. Nous convoquons les tuteurs. Voilà. Et vous connaissez la vie d'aujourd'hui. Et les parents n'ont même pas de poids sur les enfants, à forte raison les tuteurs. Vous voyez ? Donc ils viennent, ils disent, bon voilà, et ils vont rendre compte aux parents. Voilà.
Auditeurs et téléspectateurs du studio Kalongo, pour ceux qui nous ont pris en cours, nous parlons de la responsabilité des éducateurs face au comportement, ou bien je vais dire aux attitudes des adolescents. Alors, pour nous édifier, nous avons autour de cette table M. Alou Aye, il est sociologue, et M. Yougbare Zakari, il est surveillant au complexe scolaire privé L'Intégrale du Savoir. La crise d'adolescence est une étape difficile pour l'adolescent, pour la famille et pour les encadreurs et la société en général. Selon vous, cette étape de l'enfance qui est mal vue par la société, ne pensez-vous pas que l'enfant réclame son droit qu'il pense être confisqué? Monsieur Alou.
Merci. En vérité, la crise de l'adolescence est une étape dans le processus de l'évolution de l'enfant. Une étape assez problématique parce que ça met en relief, si vous voulez, une sorte de tendance de rébellion de l'enfant vis-à-vis de l'ordre qu'il va retrouver dans lequel il est. En fait, c'est quoi ? À partir de l'adolescence, l'enfant commence à se situer, à se poser des questions par rapport même à son existence et il a l'envie, si vous voulez, de marquer son existence. C'est à partir de cet instant-là qu'on va commencer à faire le choix de sa vie. Et malheureusement, c'est l'instant également où l'enfant commence à se détacher de plus en plus de ses parents et vouloir chercher d'autres repères ailleurs. Et ces repères, généralement, on les retrouve beaucoup plus dans les médias, à travers les stars du football, de la chanson, et trucs comme ça, de comportement. Que l'enfant.
Surtout ces derniers temps avec les réseaux sociaux.
Merci, surtout avec les réseaux sociaux. Donc, l'enfant a. Comment est-ce qu'on appelle ce besoin de s'exprimer. Il a besoin d'affirmer, de s'affirmer soi-même. Et malheureusement, lorsqu'on n'accompagne pas bien, il a tendance à vouloir copier tout ce qui vient de l'extérieur. Et en copiant ce qui vient de l'extérieur, si les parents ne font pas assez attention, eh bien, on va tomber dans des travers pour lequel il serait très difficile de pouvoir récupérer l'enfant. Donc, c'est pourquoi je dis bien, l'étape-là, elle est décisive. Et c'est l'étape au cours de laquelle les parents doivent communiquer. Parce que vous savez, l'un des défauts, en tout cas, que nous avons dans notre société ou dans notre communauté, c'est le déficit de dialogue, de communication dans les foyers. Or, j'ai l'habitude de le dire, un enfant qui découvre.
C'est le parce déficit vous, ou bien c'est l'absence complètement.
Des fois, vraiment, c'est l'absence. Il y a beaucoup de tabous, beaucoup d'interdits pour lesquels l'enfant ne sait pas. S'il y a un interdit, il faut expliquer le pourquoi. Si... Je vous dis, par exemple, de ne pas suivre tel film. Mais il faut dire le pourquoi. Je vous interdis de naviguer sur Internet ou je vous interdis de prendre un portable. Il faut dire pourquoi. Mais on fait trop d'interdits sans pour autant expliquer, communiquer là-dessus. Parce que à chaque instant qu'un enfant fait de vous, parents, son modèle, sa première source d'information, dites-vous que vous avez reçu. Mais lorsque l'enfant, pour des questions de sa vie, de son existence, va le découvrir ailleurs, dans la rue, à travers le média, à travers ses camarades, dites-vous s'il y a des difficultés, c'est à travers eux qu'il va retourner pour chercher des solutions. Alors que s'il découvre l'information avec
et en cas de face à ce comportement, y a-t-il ça peut impacter sur la société?
Mais évidemment, oui. Ça a de l'impact puisque toute situation qui a un impact sur la vie de l'enfant, des adolescents, vous avez dit tout de suite qu'ils sont majoritaires. Eh bien, ça va finir par avoir des répercussions sur la société parce que la société ne construit pas des enfants pour qu'ils deviennent, pour qu'ils traînent des contre-valeurs. On les éduque, on les met au monde pour qu'ils puissent incarner les valeurs de la communauté afin qu'il y ait ce qu'on appelle la perpétuation. Mais dès que vous allez mettre au monde un enfant et qu'il ne soit pas à mesure de garder le minimum de valeurs, de la société, mais vous avez échoué dans votre éducation. Et la communauté entière a échoué parce que demain, c'est ces enfants-là qui seront le relais. Si ces enfants-là ne portent pas de valeurs nobles, comme j'ai l'habitude de le dire, mais qui va le faire? Donc c'est la société qui va partir en décadence.
Comment alors? Comment cette société peut le faire?
La société peut le faire en accompagnant les enfants. C'est une crise, hein, comme on le dit, c'est une crise d'adolescence. À partir de l'étape de cette crise-là, qui généralement ne passe pas 3 ans, 4 ans, il faut accompagner l'enfant. Il faut l'accompagner par l'écoute. Il faut beaucoup écouter vos enfants. Il faut discuter avec eux. Il faut dialoguer avec eux sur chaque thématique. Il n'y a pas de tabou en ce moment-là. Parce que l'enfant est en train de voir un changement en lui. Il est en train d'opérer un changement en lui. Et il a envie de s'exprimer. Par conséquent, il faut que vous qui êtes déjà adulte, qui avez connu ces passages-là, il faut l'assister, l'accompagner, afin qu'il puisse au maximum réduire les dépendances ou les dérives. Mais lorsque vous refusez de dialoguer avec votre enfant, de toute façon, ce que vous ne voulez pas là, il va le découvrir, il va le savoir, parce qu'il y a plusieurs sources d'information aujourd'hui, il y a plusieurs sources d'éducation. Par conséquent, vaut mieux qu'il le découvre avec vous en tant que parent, parce qu'en ce moment-là, il va avoir plus confiance en vous. Et demain, comme je le disais tout de suite, s'il y a des problèmes, il peut facilement revenir vers vous parce qu'il sait que vous êtes à mesure de lui donner des éclaircissements par rapport à la situation. Mais il ne faut jamais se taire sur des réalités lorsque votre enfant est devenu adulte. Il faut l'assister, il faut l'accompagner et c'est ainsi que nous pouvons réduire l'impact et l'aider véritablement à devenir homme.
Merci, monsieur Alou Aye. Monsieur Yougbare Zakari, l'absence de communication avec les parents ou bien le déficit de communication. Et vous êtes les encadreurs, vous passez plus de temps avec les adolescents ou bien les élèves. Face à cette situation, quelles conséquences cela peut-il avoir que les parents n'ont pas assez de temps pour communiquer? Les parents n'ont même pas le temps pour communiquer. Donc, il y a déficit et absence totale parfois de communication. Quelles conséquences ça peut avoir sur le cursus scolaire ou bien le résultat de l'élève?
Il y a beaucoup d'impact. Parce que la période de la puberté, tant que, comme il vient de le dire, tant qu'il n'y a pas de dialogue, ça ne peut pas aller. Et le dialogue, il faudrait le faire avec une manière plus souple.
Vous le faites avec les jeunes?
J'arrive. Oui, nous le faisons. Nous les appelons, parce que souvent, la crise, ils sont appelés à poser beaucoup d'actes, les actes négatifs. Moi, je l'appelle, il vient ici. D'abord, je lui donne un petit temps pour qu'il se dégonfle, comme on le dit. Après, je dis, mais tu sais que tu es très important. Mais pourquoi tu fais comme ça? Tu es le miroir de ta famille. Pourquoi ces genres de comportements?
Une communication non violente.
Non violente, oui, tous, oui. Et en même temps, je le responsabilise. Ah oui, il voit qu'il est très important.
Oui.
Et c'est comme ça que j'arrive à un peu atténuer la folie, comme on dit.
Parce que vous n'êtes pas sans savoir, il y a de ces encadreurs ou bien de ces personnes, quand ils appellent l'enfant, ils ont eux aussi une communication très violente, ce qui peut encore
enflammer les choses.
Oui, tout à fait. Oui. Vous voyez, non?
Non, c'est moi, j'ai...
Parce qu'eux, ils ont le statut, ils pensent qu'ils sont surveillants.
Oui.
Ils sont supérieurs, mm-hmm. Donc ils peuvent... Une communication verbale très violente. Oui. Et ça, ce n'est pas sans conséquence. Hein?
Oui. Et ceux qui ont l'habitude de le faire, je pense qu'à partir d'aujourd'hui, ils doivent cesser cela. Mm-hmm. L'enfant, il faut l'amener vers toi. Il faut le sensibiliser. Il faut le faire comprendre qu'il est important pour la société. Voilà. Et ce n'est pas par hasard qu'on l'a amené ici. Donc, quand vous faites comme ça, on a beaucoup de chances de récupérer les récalcitrants. Mais déjà, il est violent et vous l'approchez avec une violence, voilà, ça va casser. Voilà.
En tout cas, on ne le souhaite pas. La société a besoin de ces enfants-là. C'est eux l'avenir. Bien que la génération 2.0, monsieur Alou Aye, par rapport à cette situation, qu'est-ce que vous préconisez en matière éducative? Y a-t-il des règles?
Oui, il y a évidemment des règles. Et comme il l'avait dit, je pense que c'est d'abord essayer de créer un climat de confiance. C'est vrai. Et c'est la grosse interrogation, les parents n'ont pas le temps. Et chaque fois, je me demande, et pourquoi on met au monde un enfant?
Moi, je ne peux pas comprendre. Les parents n'ont pas le temps. Nous avons 24 heures
dans la journée,
quand on fait le ratio, l'année, la semaine, bien que le week-end, les parents ont autre chose à faire. Nous sommes à Niamey, par exemple, avec les baptêmes, les cérémonies. Est-ce que les parents, qu'est-ce que vous préconisez à ces parents par rapport à la situation des adolescents, des jeunes?
Vous savez, le temps, il faut savoir le gérer. Et comme je l'avais dit, chaque fois je m'interroge le pourquoi mettre au monde un enfant lorsqu'on n'a pas le temps pour l'éduquer. Ça n'a vraiment pas de sens qu'on devienne ce que les pédagogues appellent des géniteurs au lieu d'être véritablement des pères. Parce que c'est seulement dans le monde des animaux où on met au monde un enfant, on l'abandonne. On le laisse à la dame nature pour qu'elle l'éduque. Mais lorsqu'on est humain, lorsqu'on est un être humain sensé, on met au monde un enfant, on a la responsabilité, le devoir de l'éduquer. Et éduquer un enfant suppose sacrifier son temps pour lui. On ne peut pas dire que H24, je n'ai le temps que pour chercher la subsistance, que pour chercher l'argent. Et le temps qu'on doit consacrer à écouter nos enfants, à les observer, à dialoguer avec eux, à les accompagner. Parce que c'est ça qu'il nous faut. Par conséquent, dans chaque lieu de charge, de chaque père, il faudrait qu'au petit matin ou au début de la semaine, qu'il puisse décliner le temps qu'il lui faut. De la même manière que tu prévois le temps pour partir chercher à manger, il faut que tu aies ce temps-là pour écouter tes enfants, pour discuter avec eux, pour dialoguer avec eux, afin de mieux les cerner et les accompagner. Parce que c'est ça notre responsabilité. Mais lorsqu'on va se dire que non, il y a l'école, je vais l'amener très tôt. Vous allez voir, à partir du 3e, même, on amène l'enfant à l'école. Et on s'en fout plus de lui, parce qu'on sait qu'il est dans de bonnes mains, on va supposer qu'il est dans de bonnes mains. Non. L'éducation, c'est un tout, comme je l'avais dit, c'est un processus. Et un processus qui dit processus, il faut forcément le suivre. Si vous ne suivez pas les différentes étapes de ce processus-là, votre enfant peut tomber dans la dérive. Il peut être égaré. Et en ce moment-là, il serait trop tard pour le récupérer. Donc, à partir de l'adolescence, je le dis bien, il faut savoir changer les dialogues avec les enfants. Comme l'avait dit le surveillant, il faut savoir les approcher et surtout les responsabiliser. L'enfant a besoin de se sentir en confiance à partir de l'âge adolescent. Puisque c'est en ce moment-là qu'il se voit déjà grand. Il se voit à la hauteur peut-être de son père. Et si c'est une fille, elle se voit à la hauteur de sa maman. Parce que morphologiquement, elle répond à une dame. Physiquement, elle répond à un homme. Par conséquent, il faut savoir changer de dialogue à partir de cet instant-là. Comment l'approcher de la manière la plus appropriée pour qu'il puisse vous écouter et qu'il puisse comprendre qu'il a une certaine responsabilité à jouer et que surtout que les parents ont de la considération en lui. Mais lorsque du fait tout simplement qu'il pose des actes qui ne sont pas bien, vous allez le renier, vous allez chaque fois dénigrer ce qu'il est en train de faire, il va se mettre dans la tête qu'il n'a plus sa place dans la famille, qu'il n'a plus sa place dans la communauté et il va devenir beaucoup plus rebelle. Et c'est ça qui n'est pas bon.
On ne le souhaite pas. Monsieur Yougbaré Zakari, les élèves, les jeunes, les parents aussi vous ont confié cette tâche. Quels sont les conseils ou bien des messages que vous avez à l'endroit de ces jeunes et de leurs parents aussi?
Et ce que j'ai à dire à l'endroit des jeunes, qu'ils sachent que, comme je le disais, ils sont les miroirs de leurs parents. Et les comportements qu'ils sont en train d'adopter dans les écoles, qu'ils arrêtent cela et qu'ils se mettent au travail. Voilà. Quant aux parents, et l'école ne peut pas tout faire, qu'ils essayent de trouver un peu de temps et de passer à l'école. Un peu de temps d'échanger avec les enfants. Voilà. Que de laisser les enfants dans les mains des mamans, laisser les enfants à la merci de la rue. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire à l'endroit des parents.
Monsieur Alouaye, un message à l'endroit des mamans et des pères aussi.
Oui, pour mon message, en tout cas, serait de dire en termes d'éducation, de rappeler peut-être ces deux volets de l'éducation. Le premier volet, c'est celui de transmettre les valeurs. Donc, qui est beaucoup plus un idéal, qui est beaucoup plus théorique. Mais il ne faut jamais oublier ou occulter l'aspect comportement. Il faut que tout ce que nous sommes en train de dire à nos enfants de faire, que tu dois être respectueux, que tu dois être poli, que tu dois être gentil, que tu dois être travailleur, que tu dois être ceci, cela, eh bien, il faut que nous-mêmes, nous puissions les incarner dans le fait et geste, dans le comportement à tous les jours. Parce que une chose est de transmettre, de dire les bonnes manières, mais lorsque dans votre comportement, vous, en tant que père ou en tant que mère, vous ne reflétez pas ces bonnes mœurs, votre enfant ne peut pas les adopter. Mais par ailleurs, même si vous n'êtes pas assez pointu, assez rigoureux dans la transmission verbale des valeurs, mais dans le comportement, vous les incarnez, dites-vous que vous avez toutes les chances pour que votre enfant puisse les adopter parce qu'il vous a vu faire. Il n'y a pas meilleure école pédagogique que celle de l'exemple.
Et le non-respect des règles peut-elle avoir des répercussions sur la société?
Oui, évidemment. Vous avez vu tout ce que le surveillant vient de développer comme conséquence. Aujourd'hui, tout ce que nous sommes en train de voir comme antivaleur, la consommation, les violences à l'extrême, les viols, tout ce qui est négatif, c'est du fait tout simplement qu'on a raté l'éducation. Tous ces enfants-là, si vous allez les approcher ou si vous allez observer de la manière dont les parents les ont éduqués, vous allez comprendre qu'il y a eu des ratés dans leur éducation. C'est les conséquences de ces ratés-là qui nous donnent les résultats comme ça. Mais sinon, un enfant qui a été suffisamment éduqué et qui a vu de bons exemples à travers ses parents, à travers les aînés, je vous assure, je ne dirais pas qu'il ne peut pas de temps à autre dériver, mais je vous assure, il va revenir sur le bon chemin. Et il a toutes les chances de réussir parce qu'il a eu cette chance de vivre dans un environnement harmonieux où les valeurs sont respectées, où l'éducation est là, et surtout en termes de comportement, il a vu faire.
Donc, pour le respect de nos valeurs sociales, nous prenons la communication non violente avec nos enfants et aussi d'avoir du temps pour les enfants, de consacrer du temps pour les enfants. Là, c'est une obligation à tous les parents, que ce soit père ou mère, nous avons cette obligation d'accorder du temps à nos enfants. Auditeurs et téléspectateurs du studio Kalangou, nous sommes au terme du forum axé sur les valeurs sociales chez la jeune génération. Quelle solution pour une société pacifique? Nous sommes en compagnie de monsieur Youbare Zakari, surveillant au complexe scolaire privé L'Intégrale du Savoir, et de monsieur Alou Aye, sociologue. Donc, à la technique, c'est Issa Lawali. À la réalisation, c'est Mustapha Ayouba. À la présentation, c'est Balkis Ahmed Sidi. Donc, au plaisir de nous recevoir chez vous pour un prochain rendez-vous du forum du studio Kalangou.